avez peut-être entendu dans mes chants sous le sable, au ciel trône et couronne, et là, dépouillé des vêtements royaux. Alors, je vous invite à prendre votre Bible dans l'évangile de Jean, parce que nous allons parler justement de l'abaissement de Jésus. Jean chapitre 1. L'évangile de Jean, chapitre 1, permettez-moi de lire les 14 premiers versets, après quoi nous allons prier, remettre ces moments entre les mains de Dieu, pour voir ce qu'il a pour nous. L'évangile de Jean, chapitre 1, suivez avec moi alors que je fais la lecture de ces 14 premiers versets. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Prions. Oui, Seigneur, nous te remercions encore une fois pour ta parole et pour les vérités qui s'y trouvent. Que tu nous éclaires, Seigneur, que tu puisses toucher notre cœur avec ta parole, que tu nous transformes, que tu nous reprends là où c'est nécessaire, et Seigneur, que tu reçois tout l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans le cœur de chacun ici ce matin. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Donc, vous savez, dans l'histoire de l'homme, depuis que l'homme existe sur la terre jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des événements qui ont marqué l'histoire. Et je pensais tout récemment à quelque chose parce que on y est dedans. Vous savez, au mois de décembre, il y a à peu près 70 ans, les Japonais sont venus attaquer les Américains à Pearl Harbor. Et c'est là un peu le fait qui est l'événement qui a lancé les États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'événement moteur qui a finalement fait dire aux Américains, là, on nous a touchés, on va agir. Et puis, c'était en fait l'année d'après où les Américains, les Alliés ont débarqué et tout cela s'est passé. Donc, à un moment décisif dans l'histoire de l'homme. Si on remonte encore plus loin, ici en Europe, en France particulièrement, quand on parle de la Révolution française, quelque chose qui a marqué, pour le bien ou pour le mal, l'histoire française. Et lorsque nous remontons, nous pouvons un peu dans l'histoire voir les événements dont on se souvient, des événements qui ont vraiment marqué l'histoire, parfois bouleversé, comme j'ai dit, pour le mal. Pour le mieux. Et dans Jean chapitre 1, Jean relève justement plusieurs de ces choses, plusieurs de ces événements qui ont vraiment bouleversé l'existence humaine. Et il nous montre comment nous devrions réagir face à cela. Et c'est loin d'être l'indifférence, au contraire, c'est une adoration de plus en plus grande pour Dieu qui devrait être le résultat de cette compréhension de ces événements. Alors déjà, si nous revenons au verset 1 de notre texte, premier événement, au commencement était la parole. Est-ce que cette phrase ne vous rappelle rien dans l'Ancien Testament? Au commencement, Dieu créa. Genèse chapitre 1, verset 1. Et je dirais, un des événements les plus marquants dans toute l'histoire, c'est justement la création de cet univers et puis de l'homme. C'est Dieu qui le fait. Dieu existait depuis toute éternité. Il était suffisant en lui-même. Et pourtant, à un moment donné, le Dieu Tout-Puissant va parler et va créer notre univers, va créer notre terre, va créer l'homme de la poussière de la terre. Je crois que vous serez d'accord avec moi que c'était un moment bouleversant pour l'homme. Parce que l'homme est venu à l'existence. L'homme a un début, contrairement à Dieu. Dieu n'a pas de début, Dieu n'a pas de fin, nous le savons. Mais l'homme, il a démarré quelque part. Et c'est Dieu qui l'a fait. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Dieu a créé la vie et Dieu soutient la vie. Et ici, en Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et puis, Jean va continuer en disant la parole était avec Dieu. C'est normal. Ils sont un. Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il était avec Dieu. Et la parole était Dieu, comme s'il devait avoir de l'ambiguïté. Et Jean dit, Dieu a créé l'homme. C'est quelque chose qui a bouleversé l'existence de l'homme, parce que c'est là où elle est venue, à l'existence. Et puis, il continue verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Jean ne veut pas que nous rations le fait que cette parole, et nous savons que c'est Jésus-Christ, avec Dieu le Père, ils étaient là au début, au commencement, et c'est eux qui ont tout commencé. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a créés. Et ceci va à l'encontre de ce que l'homme égoïste voudrait croire. L'homme se croit le centre de l'univers, n'est-ce pas ? L'homme croit pouvoir créer des choses, croit pouvoir démarrer tout. L'homme croit qu'il s'est fait lui-même. Ça, c'est l'homme égoïste qui ne tient pas compte de Dieu, qui ne veut pas rendre des comptes à ce Créateur. Mais Dieu, dans sa parole, est très clair là-dessus. Dieu a créé la vie. Dieu a créé même toutes choses, comme nous allons voir dans un instant. Mais déjà, restons avec l'homme. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a créé toute notre histoire. Et il a pu le faire parce qu'il est Dieu. Il est ce grand créateur. Ce n'est pas un petit Dieu qui aurait pu faire cela. Non. Il est le Dieu tout-puissant. Et Jésus-Christ était là parce qu'il est Dieu. Il était là au commencement avec Dieu. Il a participé à l'œuvre de la création. Et puis, verset 3, Jean va continuer. Comme si la création de l'homme lui-même, de tout cet univers, n'était pas assez, il va préciser, verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Sans Jésus-Christ, rien dans ce monde n'existe. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, plusieurs années plus tard, l'auteur de cette épître va dire le Fils est le reflet, le parfait exemple, le reflet parfait, exact, du Père, et il soutient toute chose par sa parole puissante. C'est Jésus-Christ qui le fait. Et toutes choses ont été faites par elle. Et je vous pose la question, y a-t-il de l'ambiguïté ici ? Je lisais ce verset, je me suis dit, est-ce qu'il y a de l'ambiguïté ? Vous savez, les avocats sont très habiles pour trouver à la fois l'ambiguïté et puis les mots qu'il faut pour contourner soit des lois ou autres. Ils vont dire, oui, c'est marqué là, mais ça peut vouloir dire autre chose. Vous savez, les avocats, ils sont très habiles pour des années d'études pour faire ça. Mais ici, Jean ne voulait pas du tout qu'il y ait de l'ambiguïté. Toutes choses ont été faites par elle, par cette parole, Jésus-Christ lui-même. beaucoup de choses. Et comme si ce n'était pas assez, il dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et là, Jean, tu te répètes. Jean, ce n'était pas utile d'ajouter la deuxième partie de ce verset, parce que tu l'as déjà dit, toutes choses ont été faites par elle. Mais il prévoyait que quelqu'un puisse remettre cela en question, et n'est-il pas le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, la plupart des gens ne reconnaissent pas que Dieu ait créé toutes choses. À la limite, peut-être ils vont dire que Dieu a créé certaines choses, Dieu a créé la majorité des choses, mais bon, si Dieu a créé toutes ces choses, il ne s'en occupe plus, il a créé le monde et puis il laisse le monde continuer comme il veut. Certains croient à cela. Les gens disent non. Toutes choses ont été créées par Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien. Aucune possibilité de comprendre ce verset différemment de ce qu'il dit. Et de savoir que Dieu, au début, ce grand créateur de l'univers qui n'avait pas besoin de créer, certains disent parfois que Dieu a créé le monde et l'homme parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour aimer. C'est faux. Dieu s'aimait et s'aime encore au sein de la Trinité et il est suffisant pour cela. Il n'avait pas besoin de nous. Et pourtant, il a fait. Oui, c'est son amour qui l'a poussé à le faire, mais ce n'était pas une nécessité. Et Dieu crée toutes choses, non pas parce qu'il a besoin de les créer, mais parce qu'il veut. Et toutes choses existent par lui. Et verset 4. En elle, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Cette parole, c'est elle qui apporte la vie. Genèse chapitre 2. Dieu va créer l'homme, va insouffler dans ses narines un souffle de vie. Nous avons cette vie de la part de Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons créée. Ce n'est pas nous qui l'avons cherchée quelque part pour essayer de la saisir. Non. C'est Dieu qui, dans sa grâce et dans son amour, nous donne cette vie. Et malgré tous ses efforts, depuis littéralement des milliers d'années, l'homme est encore aujourd'hui incapable de créer la vie. L'homme transforme. L'homme peut imiter un peu certains aspects de la vie, mais l'homme est encore, avec toute sa technologie, l'homme est encore incapable aujourd'hui de créer la vie. Et moi, je suis convaincu que Dieu l'empêchera de pouvoir créer la vie. Parce que c'est une chose qui appartient à Dieu seul. Et néanmoins, l'homme essaie d'usurper la place de Dieu. L'homme essaie de se prendre pour Dieu. L'homme croit que quelque part il est Dieu. Et nous voyons ici que Dieu est totalement distinct de l'homme. La vie des hommes vient de Dieu. La vie des hommes ne vient pas des hommes. Et puis il y a cette lumière des hommes. Et lorsque nous comprenons ce que Dieu est en train de faire ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu aurait pu, s'il avait voulu, Dieu aurait pu créer tout l'univers, tout ce qui contient, le monde, les hommes, les animaux, tout ce que nous voyons autour de nous, et puis mettre tout cela en marche, et puis partir en vacances quelque part, faire ce qu'il veut. Dieu aurait très bien pu faire ça, mais il ne l'a pas fait. Non, Dieu s'est inséré dans la vie des hommes. L'homme, par lui-même, est dans les ténèbres à cause de ses péchés. L'homme est incapable de faire ce qu'il fait à Dieu par lui-même à cause de son péché. Et pour surmonter cela, Dieu s'est inséré dans la vie des hommes. Il a envoyé des prophètes, il a donné sa parole. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un témoignage de ce que Dieu est en train d'accomplir parmi les hommes. Et cette vie était la lumière des hommes. Pourquoi une lumière? Parce que les hommes sont dans des ténèbres. Ils ont besoin d'être éclairés pour leur montrer Dieu. Et c'est ce que Dieu fait depuis le tout début. Depuis la chute, Dieu n'a cessé d'éclairer l'homme avec sa parole, avec sa vérité. Et nous voyons au verset 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous pouvons dire, mais quelle honte, quelle horreur, quels insensés, ces personnes qui, au moment de la venue de Jésus-Christ sur la terre, l'ont refusé. Croyaient qu'il était blasphémateur, croyaient qu'il était un égoïste, croyaient toutes sortes de choses à son sujet et l'ont refusé. Avec du recul, nous nous disons, mais c'est tellement insensé, c'est tellement incompréhensible que les gens puissent être devant le Fils de Dieu lui-même manifesté en chair et puis le refuser. Pour nous, ça semble tellement illogique et ça l'est. Mais posons-nous la question à leur place, qu'aurions-nous fait? À leur place, serions-nous du nombre des disciples? Serions-nous de ce nombre qui a suivi Jésus et qui lui était fidèle? Il n'était que quelques-uns, la grande majorité, a refusé d'accepter Jésus-Christ pour qui il était et pour qui il est. Et comment pouvons-nous croire que nous aurions agi différemment? Je vous soumets que nous aurions agi exactement comme la grande majorité. La lumière luit dans les ténèbres. À l'époque de Jésus, elle luit encore aujourd'hui, parce que ce monde est dans les ténèbres. C'est de regarder quelques minutes les infos pour comprendre que ce monde est dans les ténèbres, n'est-ce pas? Et la lumière luit, mais la triste réalité, c'est que beaucoup refusent encore Dieu. Beaucoup refusent encore de venir à celui qui peut les apporter la vie. Refuse de venir à celui qui peut les apporter la lumière. Et les inconvertis, tant qu'ils n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur sauveur, sont encore dans les ténèbres, sont encore loin de Dieu. Mais quelque chose que je suis convaincu est tout aussi triste, sinon plus triste, c'est que parfois les chrétiens refusent l'aide que Dieu les apporte dans sa parole. Et je dis ceci en reconnaissant que j'en fais partie. Il y a des moments où je refuse l'aide que Dieu apporte dans sa parole pour vivre la vie chrétienne. Je veux le faire par moi-même. Et j'ignore, je minimise ce que Dieu dit dans sa parole. Je me souviens, Dieu m'a donné à un moment donné, l'occasion de dire quelques mots à ma prof de chant et de voix à l'école de musique pendant que j'étais à l'Institut biblique. Alors, pendant que j'étais à l'Institut biblique, je suis aussi à l'école de musique de Nantes, des cours de chant. Et à un moment donné, j'avais l'occasion de témoigner. Je ne l'ai pas fait. J'avais un peu peur, un peu... Pas que c'était honte, c'était plus la peur qu'autre chose. Je suis passé à côté de cela. Et pourtant, je connais les versets. Pourtant, je sais que l'aide de Dieu est là. Mais là, je l'ai refusé. Et nous pouvons tous penser à des moments où nous savons ce que Dieu attend de nous. Nous savons quelle est la bonne réaction, le bon choix, ce que Dieu veut. Et pourtant, nous nous comportons comme les gens à l'époque de Jésus. Ils ne l'ont pas reçu. Bien sûr, pour nous, si nous sommes chrétiens, notre salut n'est pas en question. Mais l'aide que Dieu peut apporter, nous passons si souvent à côté de cela. Et pourquoi? Parce que nous croyons mieux faire? Parce que nous croyons avoir la réponse? Parce que nous croyons y arriver tout seul? Et à ce moment-là, nous ne sommes pas différents de ceux qui ont refusé Jésus-Christ lors de sa venue. Lorsque nous voyons qui Dieu est, ce grand Créateur qui a créé toutes choses, qui nous donne la vie, qui nous donne la lumière, c'est tellement illogique de refuser son aide. Et lorsque nous le faisons, il faut se repentir et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû prendre telle ou telle décision. Je n'aurais pas dû dire ou faire ou penser telle ou telle chose. J'aurais dû m'appuyer sur toi. Aide-moi maintenant dans l'avenir de faire le bon choix. Parce que malgré toutes nos fautes, malgré notre rejet, malgré nos mauvaises décisions, Dieu ne va pas nous lâcher. Dieu ne va pas dire, tu as trop fait, maintenant débrouille-toi. Non, non, non. Il va continuer de nous donner l'occasion de nous tourner vers lui pour l'aide qu'il veut apporter. Et c'est là au verset 6, nous voyons le résultat lorsque justement nous nous tournons vers Dieu, lorsque nous le laissons travailler en nous. Voilà ce qui peut arriver. Verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Alors, dans ces versets 6 et 7, l'humilité de cet homme, Jean, Jean-Baptiste en l'occurrence, l'humilité de cet homme est frappante. J'espère que vous vous rendez compte de ce qui se passe ici. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui un jour s'est dit, ah tiens, voilà ce que je veux faire dans ma vie. Tiens, voilà, aujourd'hui, je vais apporter un témoignage pour Dieu. Voilà, je m'établis témoin de Dieu. Écoutez-moi, parce que moi, j'ai quelque chose à dire. Non. Non, c'est Dieu qui avait envoyé cet homme. Et c'est Dieu qui avait dit aux parents de Jean, Élisabeth, Zacharie, voilà, votre fils sera celui qui prépare la venue du Messie. Et c'est parce que Dieu avait mis à part Jean pour ce ministère que Jean pouvait sortir et avec assurance annoncer à tous, les soldats romains, les chefs religieux, les simples gens de la rue, pouvaient leur annoncer la venue du Messie. Parce que ce n'était pas son message, mais c'était quelque chose que Dieu lui avait donné, c'était un ministère que Dieu lui avait donné. Et puis verset 7, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Par Jean? Non, non, non. Afin que tous croient par cette lumière, Jésus-Christ. Puis verset 8, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et Jean-Baptiste a très bien compris ceci. Il savait qu'il n'appelait pas les gens à venir l'écouter, le suivre lui, mais qu'il préparait le chemin pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, les disciples de Jean n'ont pas compris cela. Ils voyaient, une fois que Jésus entre sur la scène, ils voient les foules commencent à suivre Jésus et les foules quittaient Jean-Baptiste. Ils se disaient, mais en mince, notre maître, celui que nous suivons, ben, il n'est plus aussi populaire. Il y a des gens qui suivent ce Jésus. Et ils disent à Jean, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que nos chiffres croissent. Il faut qu'on ait plus de monde. Et Jean dit, mais vous ne comprenez pas. Non, non, ce n'est pas ça. Je n'attire pas une gloire personnelle. Non, ce que moi je fais, c'est diriger les gens vers celui qui mérite vraiment l'adoration et la louange. Vers celui qui mérite vraiment d'être suivi. Et Jean, parce qu'il a compris à la fois la mission que Dieu lui avait donnée, qu'il a compris que Dieu, ce grand Dieu de tout l'univers, l'avait dirigé dans ce sens, et qu'il reconnaissait sa place, non pas en tant que celui qui devait être suivi, mais celui qui devait pousser les gens vers Jésus-Christ, à ce moment-là, cette humilité va imprégner tout ce que Jean faisait, et va inspirer des centaines, voire des milliers de personnes à suivre Jésus-Christ. Quelle catastrophe, imaginez-vous, si Jean-Baptiste avait voulu à tout prix que les gens continuent de le suivre. Imaginez-vous, ça me semble tellement aberrant. Et il ne l'a pas fait, parce que lui, il a compris sa mission. Ce n'était pas pour s'attirer une gloire personnelle, mais pour diriger les gens vers Dieu, afin que tous croient par lui, par la personne de Jésus-Christ. Et d'examiner notre propre vie et de se demander Est-ce que je cherche à attirer des personnes à moi, à mon projet, mon église, mon groupe? Ou est-ce que j'essaie d'attirer des personnes vers Dieu, vers Jésus-Christ? Très souvent, lorsque nous sortons faire du témoignage, nous avons l'occasion de discuter entre guillemets de religion. Moi, je dis à chaque fois, nous n'annonçons pas une religion. Nous n'annonçons pas une église. Que les gens viennent ici, qu'ils aillent dans notre église où la parole de Dieu est prêchée fidèlement, honnêtement, non pas que cela ne m'affecte pas du tout, j'aimerais voir les gens ici, et je suis content que vous êtes là, gloire à Dieu. Mais je ne cherche pas à tout prix à ce que l'église de Vermont soit remplie. Ce n'est pas le but, c'est premier. Qu'elle soit remplie, gloire à Dieu, amen. Mais nous n'attirons pas les gens pour l'église de Vermont, nous les attirons pour Dieu. Et dans mes projets, tout ce que je fais, est-ce que je cherche à attirer les gens vers Dieu ou vers mon projet personnel? Et il est très facile de tomber dans le piège de croire que mon projet personnel est plus important que l'œuvre de Dieu. Et Jean ne s'était pas trompé. Jean savait très bien sa place, sa mission. Et comme ce verset 8 nous dit, il n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à cette lumière, Jésus-Christ. Comme il va dire à ses disciples un peu plus tard, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean ne pouvait pas le faire, mais il savait que Jésus-Christ pouvait le faire. Et puis, Jean, l'apôtre, qui est en train d'écrire ceci, c'est pas Jean-Baptiste qui écrit cet évangile, c'est un autre Jean, mais il parle d'un Jean, donc essayons de le distinguer. Jean, qui écrit cet évangile, dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Le fait que Jésus-Christ soit venu dans le monde, chaque personne a la possibilité de venir à Dieu. Il n'y a personne qui soit exempt de la possibilité, de l'occasion de venir à Dieu, de l'accepter par la foi. Dieu ne fait pas acceptation de personne. Dieu ne dit pas, je vais choisir tel ou tel groupe, mais toutes ces autres personnes, je ne vais même pas les offrir l'occasion de venir à Dieu. Nous faisons la distinction parfois, nous préférons être avec certaines personnes, nous aimons être avec des personnes qui nous ressemblent, avec lesquelles nous entendons bien, mais Dieu est prêt à accueillir n'importe qui. Et cette lumière qui est venue dans le monde, lorsqu'elle est venue, elle éclaire tout homme. Non pas que tout soit sauvé, comprenons-le bien. Et ça, on va préciser dans les versets suivants. Mais tous ont la possibilité d'être sauvés. Et lorsque nous comprenons cela, comment ne pas remercier Dieu? Comment ne pas louer Dieu davantage? Parce que si cela se tenait à nous, à ce moment-là, nous choisirons les meilleurs, tout simplement. Les gens qui, pour nous, seraient un peu sur le bord, un peu plus méprisables, qui ne seraient peut-être pas aussi intelligents, aussi beaux, aussi gentils, ben, eux, on les exclurait. Mais Dieu dit non. Je vais offrir ce salut à quiconque croit. Deux chapitres plus loin, chapitre 3, c'est ce que Jean va répéter. Ben, ce salut est offert à quiconque croit. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Et cette lumière qui est venue dans le monde éclaire tous. Tous ont la possibilité d'être sauvés. Et Dieu veut que tous soient sauvés. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas sauvé? Est-ce la faute à Dieu? Loin de là. Loin de là. Non, c'est la faute à ceux qui n'acceptent pas ce salut. D'où l'importance pour nous d'apporter cela. Les chrétiens font un grand tort de garder l'évangile pour eux-mêmes. C'est extrêmement égoïste. Dieu nous donne la mission d'aller annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. Cette grande mission qu'il donne à ses disciples et à tous les chrétiens d'aller annoncer cette parole, nous lui faisons un grand tort lorsque nous l'ignorons, lorsque nous le minimisons. Parce que Dieu est venu pour sauver tous et il veut que tous entendent. Alors nous oserions limiter cela? Non. À nous de continuer de témoigner parce que nous voyons Dieu tel qu'il est, parce que nous voyons les gens qui ont besoin de ce salut. Verset 10. Jean continue et revient à cette idée que la lumière était dans le monde a été fait par elle. Il revient de nouveau comme si on avait oublié, comme si de nouveau on remettrait cela en question. Non, non, non. Le monde a été fait par Jésus-Christ, par Dieu lui-même, et le monde ne l'a point connu. Le monde ne l'a point connu. Malgré toutes les prophéties, malgré les miracles que Jésus faisait, les gens, la grande majorité des gens à son époque l'ont ignoré, l'ont mal compris. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, malgré tant de siècles d'histoire, tant de siècles d'annonce de la parole de Dieu, avec une intelligence de plus en plus grande, selon les hommes, l'homme encore aujourd'hui refuse de connaître Dieu en tant que Dieu. Il pourrait se présenter devant eux, ils ne le croiraient pas. Vous savez, beaucoup dans le monde de dire, je ne crois à ce que je vois. Si Dieu était là, soit il faisait un miracle, s'il se présentait à moi, s'il me parlait, là je croirais. C'est faux. C'est faux. S'il ne croit pas à ce que Dieu dit dans sa parole, il ne croirait même pas si Dieu se présentait à lui. Et du coup, les gens à l'époque de Jésus ne l'ont pas connu, ne l'ont pas reconnu. Les gens à notre époque continuent de ne pas le reconnaître, continuent de refuser de reconnaître Jésus-Christ comme ce sauveur merveilleux qu'il est. Et puis verset 11, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Le comble, vraiment, que ceux qui étaient dans l'ignorance ne comprennent pas, refusent, on l'admet plus ou moins. Ok, bon, ils auraient dû, mais ils manquaient d'intelligence, ils manquaient de connaissances, ok, très bien. Mais il est venu chez les siens, c'est-à-dire les Juifs, qui avaient les prophéties, qui savaient concernant Jésus-Christ tout ce qui a été révélé dans l'Ancien Testament, et qu'eux, ils soient incapables de reconnaître Jésus-Christ en tant que le Messie, inexcusable. Inexcusable. Et les siens ne l'ont point reçu. Quel triste témoignage. Mais souvenons-nous que Dieu veut apporter son aide dans une autre vie, même en tant que chrétien, et je dirais surtout en tant que chrétien. Et que Dieu s'est révélé dans sa parole. Il nous donne tellement d'exemples dans l'histoire de l'Église, dans notre propre vie. Et il est là, et il veut agir en nous. Et parfois, nous refusons. Est-ce que nous voyons cela comme tellement grave et aussi grave que ce que les Juifs ont fait à l'époque de Jésus? Nous disons, les Juifs ont crucifié Jésus-Christ. Quel scandale, quelle honte, quelle tragédie! Mais est-ce que nous voyons que lorsque nous refusons l'aide de Dieu dans notre vie, c'est tout aussi grave? Jésus-Christ est le Tout-Puissant et il veut et il peut agir dans notre vie. Pourquoi le refuser? C'est la chose la plus illogique au monde. Et pourtant, parfois, à des moments de notre vie, ça c'est notre témoignage. Et nous avons raison d'avoir honte. Nous avons raison de demander pardon à Dieu d'avoir refusé l'aide qu'il veut apporter. L'aide qui est là. Nous devrions nous examiner davantage et demander pardon à Dieu. Parce que si souvent nous refusons son aide, J'ai déjà utilisé cette petite illustration. Mais vous savez, je ne sais pas si vous regardez les films d'action. Moi, personnellement, je les aime bien. Et cela me dépasse à chaque fois. C'est presque toujours le cas. Le héros, il est là, il va sauver tout le monde. Et puis, il se bat contre les méchants. Et lui, il a soit un petit pistolet ou autre petit fusil. Et puis, il se bat contre les méchants. Les méchants laissent tomber, grand fusil et tout. Et qu'est-ce que le gars, il fait? Il va très fier de son petit pistolet. Et à chaque fois, je me dis, mais là, à côté, ce grand fusil, il pourrait se servir de cela et tout. Non, il va continuer avec son petit pistolet. Et je me dis, quel idiot! Mais de vrai! Et en même temps, je me dis, mais dans ma vie chrétienne, j'essaie de me battre avec mes petits moyens à moi. Et à côté, il y a toute l'armée. Il y a une char. Moi, j'essaie de me battre avec un petit couteau suisse. Rien contre les couteaux suisses, hein, mais c'est très bien. Mais comparé à une char, si j'ai le choix, je pense que je vais choisir le char. Char. Un char. Oui. Char. Oui. Ouais, j'ai pas bien prononcé le R, là. Le char. Une. Un. Oui. Un char. Oui. Du coup, je vais choisir cela plutôt que le couteau suisse. C'est ce que je veux dire. Rien contre le couteau suisse. Et lorsque nous voyons ce verset 11, on est tellement perplexe pourquoi les gens agiraient comme cela. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu, mais quel grand idiot! Et dans notre vie, on agirait pareil? Et ce ne serait pas aussi grave? Je vous soumets que oui. Ça l'est. Et c'est là où on arrive au verset 12. Ce petit mot qui commence au verset 12, mais. Il y a de ceux qui refusent Jésus-Christ. Et on pourrait énumérer les raisons pour cela. Tant de raisons, malheureusement. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous, sans exception, chaque personne qui reçoit Jésus-Christ par la foi, il est sauvé. Tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, voilà la clé, de croire en Jésus-Christ, mettre sa confiance, sa foi, elle, donc cette lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ceci est extraordinaire, parce que nous savons que le salut, c'est par la foi. Aucun sujet de se glorifier, Paul l'explique bien en Éphésiens chapitre 2. Mais même la capacité de devenir enfant de Dieu vient de Dieu. Ce n'est pas par notre propre volonté en disant « je veux devenir chrétien, donc je deviens chrétien ». Même ce désir de devenir chrétien vient de Dieu. Et c'est Dieu qui nous rend capables de cela. Et voilà pourquoi l'égoïsme est banni par le salut. Parce qu'il n'y a aucun sujet de se glorifier. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'était pas enfant de Dieu, mais maintenant on le devient lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Et je suis avec le mormon qui essaie de me faire comprendre qu'on est tous des enfants de Dieu. J'ai dit, non, on est tous créés par Dieu, on est tous des créatures pour voir un Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Déjà, il y a ce verset, on devient enfant de Dieu. Et puis, quelques chapitres plus loin, au chapitre 4, c'est chapitre 8, verset 44, Jésus va dire aux chefs religieux de son époque, vous êtes fils du diable. Okay? Donc, tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu lorsqu'on place sa foi, confiance en Dieu pour le salut. Et même ce désir de faire cela vient de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Et Jean, il explique bien verset 13. Ce désir ne vient pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu est en tout. Dieu est partout. Dieu fait tout. Tout tombe pour lui. Aucun sujet de sécurité pour nous. Et c'est là où nous arrivons, verset 14. J'en termine un peu cette partie, avant de continuer avec les témoignages qui sont rendus dans la suite de ce chapitre. Il termine cette partie avec ce merveilleux verset 14, que nous entendons souvent à cette époque, et c'est tout à fait approprié. La parole a été faite chair. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de l'immensité de cela. Dieu, le grand créateur de tout l'univers, prend la forme humaine. Elle a été faite chair. Dieu qui n'avait ni commencement ni début, va commencer une vie humaine, limitée, où il connaîtra la douleur. Je ne sais pas si Jésus a jamais cassé un os. Des os, comme certains d'entre nous l'ont fait, s'il s'est coupé, mais probablement, il a connu la douleur, il a connu la tristesse, il a connu le faim, il a eu faim, il a eu soif, il a connu tous ces sentiments que nous partageons, alors qu'il ne les connaissait pas avant. Avant de venir sur la terre, Dieu n'avait jamais eu soif. Il n'a jamais eu faim. Il est Dieu. Vous imaginez Dieu avoir faim, avoir soif, c'est tellement ridicule. Et pourtant, il quitte tout cela pour venir sur la terre, pour nous. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Il ne s'est pas isolé dans un coin quelque part pour ne pas avoir de contact avec les autres. Non, il a habité parmi nous, dit Jean. Il était là, il discutait, il travaillait ensemble avec les autres. Mais cette lumière, cette parole était pleine de grâce, de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et voilà où Jean voulait en arriver. Que Jésus-Christ était en train de refléter la gloire de son Père. Et quelle doit être notre but aujourd'hui? C'est de rendre témoignage à Dieu en reflétant sa gloire. Notre but ultime n'est pas de faire des convertis, n'est pas de convertir les personnes. Nous devons chercher à faire en sorte que les gens viennent à Christ. Mais ce n'est pas notre but premier. Notre but premier, c'est de glorifier Dieu, tout comme Jésus-Christ l'a fait. Et un moyen de faire cela, c'est de faire venir les gens à Dieu. Et Jésus ici, Jean l'a bien compris, au verset 14, Jésus-Christ a reflété la gloire de son Père à chaque instant. Et les gens pouvaient le constater. Il était impossible de fréquenter Jésus-Christ sans se rendre compte que là, il y avait quelque chose de différent. Et pour nous, aujourd'hui, sommes-nous tellement pris avec notre propre vie, avec les choses dont nous devons nous occuper, que nous oublions de rendre gloire à Dieu? Quelqu'un pourrait-il donner ce témoignage de nous, que nous reflétons la gloire de Dieu, que nous sommes pleins de grâce, de vérité, de la gloire de Dieu? Quelqu'un pourrait-il nous regarder et dire cela de nous? J'espère que oui. Mais est-ce toujours le cas? Je crains que non. Ça n'est pas toujours le cas. Nous voyons Jésus-Christ qui a tout quitté dans le ciel pour venir ici sur la terre. Il a vécu dans le même monde que nous. Et il a continué de refléter la gloire, la grâce de Dieu. Il nous montre l'exemple. Et il nous donne tout ce qu'il faut. Nous avons son exemple, la parole, le Saint-Esprit en nous, qui nous rendent capables de pouvoir refléter la gloire et la grâce de Dieu. Alors, avons-nous des excuses pour ne pas le faire?
Je vous soumets que non.
Nous n'avons aucune excuse, sinon notre propre désobéissance, notre propre orgueil, notre propre manque de confiance en Dieu. Lorsque nous lisons ces versets, c'est sûr que nous sommes frappés avec notre besoin de retourner vers Dieu, de demander pardon, de ne pas refléter sa gloire et sa grâce comme nous le voulons, de ne pas suivre l'exemple de Jésus-Christ, demander son aide pour le faire. Cela ne vient pas de nous. Ce ne sont pas nos attentes, ce ne sont pas nos désirs, nos expériences, notre connaissance. Non, non, c'est Dieu qui le fera en nous. Mais il faut demander son aide. Et du coup, nous sommes devant ce choix, ce matin, soit de reconnaître que nous avons besoin de changer, que nous ne reflétons pas assez la gloire et la grâce de Dieu, ou bien de continuer comme nous sommes. Nous avons un choix. Soit je reconnais, oui, Dieu, j'ai besoin de toi, ou je continue sous comme je suis. Jean, il a compris, Jésus-Christ était venu, au point que ça a tout changé. Tout changé dans notre vie. Est-ce que ce changement est manifeste dans notre vie parce que nous l'avons accepté par la foi? Et est-ce que nous continuons tous les jours de rendre gloire et de manifester la grâce de Dieu dans chaque circonstance? C'est ce que Dieu veut. Ce choix est devant nous. À nous de prendre le choix de nous soumettre à Dieu, de refléter sa grâce par sa puissance. Prions, s'il vous plaît. Oui, notre grand Dieu, nous élevons notre voix vers toi et nous demandons ton aide à nous. Que tu puisses utiliser ces versets dans notre vie, Seigneur. Tu vois notre faiblesse, parfois même notre manque de désir, que tu nous aides, Seigneur, à nous remettre en question, à pouvoir regarder vers toi, que tu nous donnes le désir de changer pour toi, de toujours manifester comme Jésus-Christ ta grâce, ta vérité, ta gloire. Et Seigneur, que tu continues de nous transformer, que nous soyons humbles et soumis, que nous te laissions accomplir cela dans notre vie, et que tu puisses recevoir tout l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans la vie de chacun d'entre nous. C'est en ton nom que nous prions. Amen.